Bonjour. C'est Noël, bientôt. Et en cette période de Noël, on ressort des vieilles prophéties. C'est ça l'avantage de la période de Noël, c'est qu'au moins on lit un peu plus l'Ancien Testament que d'habitude. Puisque si on ne veut pas tourner sur les évangiles et les récits qu'on connaît à peu près tous par cœur, on va essayer de chercher des prophéties dans l'Ancien Testament. Et comme j'ai pas eu envie de relire une prophétie que vous connaissez peut-être déjà un peu trop, qui parle de Bethléem, qui parle d'une vierge qui va être enceinte, j'ai choisi de prendre une autre prophétie chez un prophète un petit peu bizarre qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 34. Je vous donne un tout petit peu le contexte de ce livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a été déporté de Juda vers Babylone. Donc il a fait partie de la première déportation des exilés vers Babylone. À un moment où Jérusalem n'était pas encore détruite, c'est juste que Nebuchadnezzar a fait le siège de Jérusalem et il a emmené à peu près 10 000 captifs parmi les bonnes familles de Juda. Et parmi ces personnes issues de bonnes familles de Juda, il y avait Ézéchiel. Et Ézéchiel fait sa prophétie alors qu'il est en Babylonie, au sud de la Babylonie, où et il encourage les Judéens qui sont en exil à s'installer et il leur dit, de toute façon, c'est pas la peine d'espérer un retour de l'exil de votre vivant, à la rigueur les plus jeunes, mais ça va être pendant un bon bout de temps que vous allez rester en exil à Babylone. Et à partir du verset 33 dans le livre d'Ézéchiel, Jérusalem vient de tomber. Nebuchadnezzar est retourné vers Jérusalem parce que le roi de Juda s'est une nouvelle fois rebellé contre lui et il a tout rasé. Donc là, Ézéchiel vient d'être mis au courant que Jérusalem avait été rasée par Nebuchadnezzar. Et il va faire une prophétie à l'encontre des bergers d'Israël, c'est-à-dire à l'encontre des dirigeants politiques de Juda. Ézéchiel 34. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Prophétise et dis à ces bergers, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître ? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses et vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Mes brebis se sont dispersées, faute de bergers, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays sans que personne en prenne soin ou aille à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare, parce que mes brebis ont été abandonnées au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de berger, que ceux-ci n'ont pas pris soin d'elles, mais qu'ils se sont occupés d'eux-mêmes au lieu de faire paître le troupeau. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare. Je vais m'en prendre à ces bergers. Je leur redemanderai mes brebis et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé, ainsi j'irai à la recherche de mes brebis. Et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées en un jour de brouillard et de ténèbres. Je les ferai sortir de chez les peuples et je les rassemblerai des divers pays. Je les ramènerai dans leur propre pays pour les faire paître sur les montagnes d'Israël, près des cours d'eau et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages et elles trouveront leur herbage sur les hautes montagnes d'Israël. Elles reposeront dans une belle prairie et elles se nourriront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera éloignée. Je panserai celle qui a une patte cassée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Et vous, mon troupeau, voici ce que l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel déclare. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Ne vous suffisait-il pas de paître dans un bon pâturage ? Fallait-il encore que vous fouliez sous vos pattes ce qui restait à brouter ? Ne pouviez-vous pas vous contenter de boire une eau limpide ? Fallait-il troubler de vos pattes ce qui en restait ? Mon troupeau en est réduit à brouter l'herbe que vous avez piétinée et à boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, vous déclare. Je vais moi-même prononcer mon jugement entre brebis grasses et brebis maigres. Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes les brebis faibles. Vous les avez frappées de vos cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassées dehors. C'est pourquoi je viendrai au secours de mon troupeau et il ne sera plus livré au pillage. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis. J'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il prendra soin d'elles et sera leur berger. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance qui leur garantira la paix. Je débarrasserai le pays des bêtes féroces, de sorte que mes brebis pourront habiter en sécurité dans les steppes et dormir dans les forêts. Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. Les arbres dans les champs donneront leurs fruits et la terre produira ses récoltes. Les brebis vivront en toute sécurité dans leur propre pays et elles reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai brisé les barres de leur joug et que je les aurai délivrées de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus pillées par les nations et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Elles vivront en toute sécurité, sans être inquiétées par personne. Je leur susciterai un plan renommé. Personne ne succombera plus à la faim dans leur pays et les membres de mon peuple n'auront plus à subir les insultes des autres nations. Et ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux et que, les gens de la communauté d'Israël, ils sont mon peuple. Leur Seigneur, l'Éternel, le déclare. Vous, mes brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes et moi, je suis votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Passage un petit peu long, mais qui insiste bien, d'une part, sur l'état désastreux du peuple, et d'autre part, sur la promesse de l'Éternel devant cet état désastreux. Et on va voir déjà l'état désastreux en décortiquant un petit peu ce texte. dans ce passage, dans cette prophétie, Ézéchiel décrit un jugement. Un jugement, il décrit deux sortes de criminels qui sévissent ou qui ont sévi en Juda. Les premiers criminels, ce sont ceux qui sont décrits dans la première partie de cette prophétie, ce sont les dirigeants politiques, les bergers. Les bergers, les dirigeants politiques, les rois de Juda, ils ont commis 5 crimes. Le premier crime, au verset 3 et 4, ils se sont servis eux-mêmes. Ils ont utilisé le troupeau qui était à leur charge pour se servir. Ils ont exploité le peuple pour leurs propres intérêts. Deuxième crime, qui vient à la suite du premier, ils n'ont pas aidé les plus faibles. Quand il y avait des pauvres dans le peuple, quand il y avait des personnes en difficulté, alors que leur rôle de roi était de les aider, ils ne les ont pas aidés. Troisième crime, au verset 5, ils ont utilisé l'autoritarisme et la tyrannie. Ces rois ont été des rois cruels, des rois qui ont utilisé la force pour se faire entendre, et en plus dans un mauvais but. Quatrième crime, ils n'ont pas lutté contre l'idolâtrie. Dans ce texte, l'Éternel dit au peuple, vous avez laissé mes brebis aller sur toutes les collines. Et quand il dit ça, il ne parle pas de pâturage, il parle des collines sur lesquelles on allait adorer Baal et Astarté. Les collines, souvent dans les prophéties, ce sont des lieux où on se livre à l'idolâtrie. Le peuple s'est fourvoyé dans l'idolâtrie, et les rois, qui normalement avaient pour rôle de maintenir le peuple dans la fidélité à l'Éternel, les rois n'ont pas empêché le peuple de se fourvoyer. Ils n'ont pas empêché, mais en plus, encore pire, ils les ont presque encouragés. Ils sont eux-mêmes versés dans l'idolâtrie, et le peuple les a donc imités. Cinquième crime, et c'est la conséquence finalement de tous les autres crimes, la conséquence qui est décrite dans le livre du Deutéronome, les rois sont responsables de l'exil. Parce que les rois n'ont pas lutté contre l'idolâtrie, parce que le peuple s'est vautré dans l'idolâtrie, le Seigneur a décidé de les exclure de la terre promise. C'est le Seigneur qui a envoyé Nebuchadnezzar raser Jérusalem et emmener son peuple en déportation. En réponse au crime du peuple. Au crime du peuple, mais les vrais responsables, ce sont les rois qui n'ont pas lutté contre cela. Les deuxièmes criminels qui sont jugés dans cette prophétie, ce sont les riches. Ce sont ceux qui sont décrits comme des brebis grasses. Ceux qui mangent et puis qui piétinent après le pâturage une fois qu'ils ont mangé. Ce sont ceux qui boivent et puis après qui troublent l'eau une fois qu'ils ont bu. De sorte que ceux qui viennent après eux ne peuvent plus brouter de la bonne herbe et ne peuvent plus boire de l'eau claire. Ce sont les riches qui profitent du système. On n'est plus avec les rois, on est avec les riches, avec ceux qui profitent du système. Ils prennent un maximum de richesses, ils profitent aussi des plus faibles. Ils sont un peu les complices des rois. Ils mettent la tête des autres sous l'eau, donc ils empêchent les plus faibles de subsister. Ils accroissent finalement la détresse des plus faibles. Et ils excluent les pauvres de tout espoir de s'en sortir. Ils entretiennent la fracture sociale. Ils ne veulent absolument pas que les pauvres deviennent moins pauvres. Et la réponse pour ces deux sortes de criminels, c'est que le Seigneur va les châtier. Le Seigneur va les empêcher de nuire. Et c'est la deuxième partie à chaque fois de ces deux parties dans cette prophétie d'Ézéchiel, c'est que Dieu va venir au secours de ces brebis. En même temps que Dieu va châtier les rois et les gens riches, il va délivrer son peuple par deux moyens. Le premier moyen, c'est au verset 11. Et vous avez peut-être compris pourquoi on lisait ça aux alentours de Noël. Le Seigneur dit « Je vais venir moi-même ». Je vais venir moi-même faire paître mon peuple. Puisque les rois sont totalement incapables d'être de bons bergers, moi-même, l'Éternel, je vais venir faire paître mon peuple. » C'est le premier moyen. Alors là, c'est un peu bizarre parce que l'Éternel qui vient lui-même sur la terre à l'époque d'Ézéchiel, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. À chaque fois, l'Éternel envoie quelqu'un, mais il ne vient pas lui-même. Mais dans une deuxième partie, au verset 23 et au verset 24, l'Éternel dit « Je vais envoyer mon serviteur David ». Donc il va quand même envoyer quelqu'un. Je vous rappelle qu'au moment d'Ézéchiel, David est mort depuis longtemps, hein, donc il va envoyer un nouveau David. Donc c'est celui qu'on appelle le Messie, un envoyé spécial de Dieu qui va rétablir la justice au milieu de son peuple. Donc deux moyens, hein, deux moyens. Et si on lit ça dans le contexte de l'Ancienne Alliance, il ne faut pas forcément y voir l'incarnation de Dieu. Hein. La plupart des contemporains d'Ézéchiel ont dû comprendre que, justement, l'Éternel allait envoyer David, David qui allait faire respecter la loi, et donc que si le peuple respectait la loi de Moïse et respectait vraiment la volonté de Dieu, et ben Dieu allait régner lui-même au milieu de son peuple. C'est un peu une image. Il ne voyait pas du tout une incarnation. Hein. Mais nous, maintenant, on peut commencer à y voir un indice. Un indice de ce que Dieu allait faire quelques 600 ans plus tard. Une fois que Dieu vient au secours de son peuple, il décrit un avenir radieux. Un avenir radieux avec un nouveau berger, un meilleur berger, et tout ira mieux. Dans les versets 12 et 13, il décrit un retour de l'exil. Donc vous étiez dispersés parmi les autres nations, parmi les bêtes féroces. Les bêtes féroces, ce sont les peuples ennemis. Eh bien, vous allez revenir. Ensuite, au verset 14, il leur promet l'abondance. Vous allez revenir et le pays va produire de beaux fruits. C'est exactement ce que le Seigneur promettait aux Hébreux sortis d'Égypte en leur décrivant la terre promise. Finalement, via Ézéchiel, il leur promet une sorte de nouvel exode, un exode à l'envers. Il leur promet aussi au verset 16 l'égalité sociale. Il n'y aura plus de brebis grasses et de brebis faibles. Il y aura des brebis à peu près normales, avec un embonpoint normal. Il y aura une sorte d'égalité sociale. Au verset 25, il leur dit « Vous n'aurez plus d'ennemis qui vont vous persécuter, qui vont faire des incursions dans votre pays. Vous ne serez plus menacés. » Ensuite, il leur dit « Il n'y aura plus de maladies. » Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'avarie parmi vous. Ça va plutôt bien se passer. Vous n'aurez plus à vous inquiéter pour l'avenir. Et ceci dans un seul but, versets 30 et 31. Comme ça, vous reconnaîtrez que Dieu prend soin de son peuple. C'est-à-dire qu'il ne faut suivre personne d'autre. Dieu va prouver que c'est lui, l'Éternel, qui prend réellement soin de son peuple. Alors quand on a lu cette prophétie, on ne peut s'empêcher de se dire qu'elle s'est accomplie il y a 2000 ans. Comment ? Eh bien déjà en remarquant que la thématique du bon berger, elle a été reprise par Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, hein, quand il dit « Je suis le bon berger », déjà il dit « Je suis », ce qui commence un petit peu à faire penser au « Je suis » de Dieu qui se révèle au peuple hébreu. Mais en plus, il dit « Je suis le bon berger ». Et quand vous lisez Jean 10, il faut absolument penser à Ézéchiel 34, parce que Jésus fait directement référence à cette prophétie d'Ézéchiel en disant qu'il est le bon berger. Et il se compare à qui quand il dit « Je suis le bon berger » ? Il se compare à des mercenaires, à des gens qui sont payés pour garder les brebis, mais comme c'est un peu des mercenaires, fonctionnaires, des personnes qui font le boulot surtout pour l'argent, mais pas trop pour le zèle, des bergers qui, quand ils perdent une brebis, ils se disent « c'est pas la mienne, de toute façon c'est pas très grave, et j'aurai ma paye comme tout le monde », du coup en fait ils s'inquiètent pas trop de l'avenir des brebis plus faibles. Jésus se compare à eux en disant « Moi, je suis le bon berger. » Quand il y a une brebis qui se perd, vu que c'est la mienne, et vu que j'y tiens, vu que je l'aime, je vais la chercher. Je ne suis pas un mercenaire. Et en plus, il fait une autre annonce dans Jean 10. Il dit « Il y a d'autres brebis qui ne font pas partie de cet enclos, je vais aller les chercher. » Ces brebis, ce sont les membres des peuples païens, des personnes qui ne font pas encore partie du peuple d'Israël. Jésus annonce que les païens vont être adjoints au grand peuple, au grand troupeau du bon berger. Jésus, est le berger promis dans la prophétie d'Ézéchiel. Il est Dieu qui vient lui-même s'occuper des brebis. Il est le nouveau David, il est le Messie promis, celui qui est parfaitement juste, et c'est lui qui va rendre heureuses ses brebis. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il naît en moins 6 ou moins 4 de notre ère, eh bien, la Judée a pour roi un certain Hérode, qui lui est la quintessence du mauvais berger. Hérode, c'est celui qui ne voit que son propre intérêt. C'est lui qui, quand on lui dit il y a un enfant qui vient de naître, c'est le Messie, au lieu de se réjouir et de se dire « Ah, c'est génial, mes brebis, mon peuple va être heureux », qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait tuer tous les premiers-nés pour être sûr de ne pas avoir de rival. Hérode est exactement un berger comme les bergers qui sont maudits dans Ézéchiel 34, un mauvais berger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus, quand il rentre dans son ministère, le diable vient le tenter. Et qu'est-ce que le diable utilise comme tentation? Il propose à Jésus le pouvoir. Il propose à Jésus ce qui a tenté les mauvais bergers en Judas. Il lui propose d'avoir le pouvoir pour se faire plaisir lui-même et plus pour servir son peuple. Et heureusement pour nous, Jésus a refusé cette tentation. Sa mission, sa nature, c'était de racheter son peuple, c'était de sauver son peuple, pas de se faire plaisir. Jésus, c'est le roi qui se dépouille de ses apparats pour être serviteur jusqu'à la mort sur la croix. C'est lui le bon berger. Mais à la suite de Jésus, eh bien, il y a des sous-bergers, des apôtres qui imitent le bon berger, dont la mission est d'imiter le bon berger. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, voici ce qu'il leur dit. « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. » Jésus donne un exemple à ses disciples en leur lavant les pieds, en se sacrifiant pour eux. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques dimanches lors de la Sainte Cène. Jésus, quand il fait cela, ne cherche pas à entretenir l'hygiène des pieds de ses disciples. Il veut leur donner une image de son sacrifice sur la croix. Et il veut dire à ses disciples, quand vous serez les dirigeants de l'Église, vous devrez vous aussi vous sacrifier pour vos brebis. Vous ne devrez pas les oppresser, les opprimer, avoir une autorité mauvaise sur elles. Vous devrez vous sacrifier pour elles. Vous devrez être serviteur de vos brebis. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de l'histoire de l'Église. Les apôtres sont tous morts martyrs pour la cause de l'Évangile. Ils n'ont pas regardé leur intérêt. Si les apôtres avaient voulu être riches et être à la tête d'un grand empire, ils s'y seraient pris autrement. Là, ils vont dans les villes, ils prêchent l'évangile. L'évangile n'est pas accepté par tous, mais ils persévèrent. Ils persévèrent jusqu'à être arrêtés. Ils persévèrent jusqu'à la mort. Ils n'ont pas voulu se préserver. Ils n'ont pas voulu sauver leur vie. Ils n'ont pas voulu devenir riches. Ils ont été serviteurs jusqu'au bout, comme leur Seigneur, comme le divin berger. Ils ont laissé l'Esprit, le Saint-Esprit du berger, agir en eux, agir comme une boussole en eux. C'est l'Esprit Saint qui met cette empreinte de Jésus à l'intérieur des chrétiens. Et voici ce que dit Paul aux chrétiens de Thessalonique, et ce qui nous montre bien quel est son état d'esprit de berger. Il leur dit « Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. » Dieu en est témoin. « Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. » Quelle admirable façon d'administrer une église que celle de Paul. Paul le dit, il aurait pu jouer les gros bras, il aurait pu jouer les héros, mais il aurait préféré encore donner sa propre vie pour la progression des Thessaloniciens. Paul est vraiment l'exemple du bon sous-berger. Mais malheureusement, ce qu'on voit dans la suite du Nouveau Testament, ce sont des mauvais rapports à l'autorité. On voit que très vite, quand l'évangile est prêché par Paul, par exemple, il y a ce qu'on appelle des judaïsants qui passent derrière Paul pour essayer de modifier cette bonne nouvelle, pour dire vous pouvez croire en Jésus, mais il faut aussi respecter la loi de Moïse, il faut aussi vous faire circoncire. Une sorte d'esprit pharisaïque qui règne dans l'Église et qui cherche à détourner les chrétiens. Des gens qui ont peur du changement, qui veulent maintenir une certaine emprise sur le peuple de Dieu et qui voient quand même d'un très très mauvais œil que des païens deviennent chrétiens. À l'opposé, nous avons aussi des faux docteurs qui passent dans les églises et qui essaient de caresser les chrétiens dans le sens du poil en leur disant « Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de changements. Vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à être comme vous êtes. Vous mettez Jésus en plus, c'est bien, mais ce n'est pas la peine de trop changer, vous voyez. Ce n'est pas la peine de trop changer vos mœurs. » C'est ceux dont Paul parle à Timothée, des gens qui caressent les chrétiens dans le sens du poil et qui vont même aller chez certaines femmes qui ne travaillent pas pour leur raconter des histoires, qui vont raconter des histoires qui sont assez passionnantes intellectuellement, mais qui n'apportent absolument rien à la progression spirituelle. Ces gens-là veulent avoir du prestige, veulent avoir des femmes. Ils se servent de l'Évangile pour leurs propres intérêts. Vous avez des chrétiens, entre guillemets, qui rejettent la simplicité de l'Évangile parce qu'ils veulent quelque chose de mieux. Et l'histoire de l'Église nous raconte l'histoire justement de chrétiens qui vont remplacer le véritable Évangile, vont remplacer le véritable Seigneur par d'autres choses, par des intermédiaires. Parce que Dieu ne suffit pas. Et c'est pour ça que il faut terminer par une mise en garde pour nous, parce que nous sommes quelques siècles après Ézéchiel, et nous pourrions penser que parce que Jésus est venu il y a 2000 ans, tout va bien. Mais nous sommes encore en danger. Nous sommes encore en danger des mêmes problèmes qui sévissaient en Juda, dans le peuple de Juda. Première mise en garde, c'est pour les dirigeants de l'Église. La tentation pour les dirigeants de l'Église, c'est comme pour les mauvais bergers de Judas, c'est se préoccuper de soi avant de se préoccuper du peuple. Se préoccuper de sa renommée, se préoccuper de la place qu'on peut avoir, de se gargariser, d'être à la tête du peuple. Ne moins regarder le bien des autres, mais plutôt, on va dire, faire de la politique pour se maintenir à son poste. La tentation est grande, quand on a un certain pouvoir dans l'Église, de devenir un mercenaire, un fonctionnaire, qui profite du système et qui ne voit plus la fin, qui ne voit plus le but de tout cela, c'est-à-dire la progression de l'Église. Tant de grands hommes dans l'Église se sont fourvoyés dans ce problème. Et personne n'est à l'abri de cela. Car le pouvoir fait tourner la tête. Le pouvoir fait faire n'importe quoi quand on ne regarde plus la fin, quand on ne regarde plus le but. On peut même faire de très 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 bonnes choses, hein, mais pour de très mauvaises raisons. Un peu comme ces prédicateurs dont parle Paul aux Philippiens. Paul parle de prédicateurs aux Philippiens qui annoncent l'Évangile. Et du coup, il dit, c'est super, ils annoncent l'Évangile. Mais il dit aux Philippiens, ils annoncent l'Évangile pour me faire de la concurrence. Paul est en prison quand il écrit l'Épître aux Philippiens. Et il dit, il y a des prédicateurs qui repassent dans les églises derrière et qui annoncent un Évangile pour me faire de la concurrence, pour avoir du pouvoir. On peut faire de très bonnes choses pour de très mauvaises raisons. Il y a aussi la tentation d'avoir une caste de personnes très spirituelles, de personnes très vertueuses qui s'opposent à des gens qui sont un petit peu ratés et qu'on montre du doigt parce que ces gens-là sont de moins bons chrétiens que les autres. On les montre tellement du doigt d'ailleurs qu'ils ne progresseront jamais. La tentation est grande aussi là, dans l'Église. Mise en garde aussi aux dirigés, aux personnes qui font partie du troupeau. C'est une mise en garde qu'on peut faire en lisant l'Ancien Testament. Par exemple, quand les Israélites demandent un roi après la période des juges. Dès le début du premier livre de Samuel, les Israélites veulent un roi. Pourquoi est-ce qu'ils veulent un roi ? Pour imiter les autres nations, pour faire comme les autres. Et quand Samuel, qui est à la tête du peuple à ce moment-là, en parle à l'Éternel, que dit l'Éternel ? L'Éternel dit à Samuel, « T'inquiète pas Samuel, s'ils demandent un roi, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. S'ils veulent un roi, c'est pour avoir un intermédiaire entre Dieu et eux. C'est pour maintenir Dieu à distance. » Et il faut reconnaître que nous pouvons verser dans ce problème, dans cette névrose, de ne pas se satisfaire de Dieu qui mène son peuple, mais de se mettre des intermédiaires entre Dieu et nous. Des intermédiaires selon nos critères. Comme Saül, baraqué, bon guerrier, mais spirituellement nul. Nos critères sont rarement ceux de Dieu. Et c'est bien de lire dans la parole quels sont les critères de Dieu. On a tous tendance à attendre l'homme providentiel. On fait parfois une confiance aveugle à des référents spirituels, des personnes référentes. Et même si c'est bon de faire confiance à des personnes qui sont sages, qui connaissent bien la Bible, c'est aussi parfois dangereux. On est toujours déçu quand on fait une trop grande confiance en un être humain. Et parfois, entre la quasi-adoration et la haine, il n'y a qu'un pas. Il suffit qu'on soit un petit peu déçu par quelqu'un qu'on a un peu trop idéalisé, et ça se passe très 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 mal par la suite. Alors faisons attention au regard qu'on peut porter aux dirigeants. Et enfin, en guise de conclusion et en troisième point, gardons la tête sur les épaules, la bonne tête sur les épaules, le bon chef sur notre corps. Le corps, c'est l'Église, la tête, c'est le Christ. Il faut que Jésus reste le chef, il faut que Jésus reste le pasteur de notre Église. Celui qui ne nous décevra jamais, c'est Jésus. Il ne se trompe jamais, il n'a pas de faille, il n'a pas de désir mal placé, il est toujours à fond avec chacun d'entre nous. Alors ne commettons pas l'énorme erreur de nous tourner vers quelqu'un d'autre. Le véritable pasteur, le véritable responsable de cette Église, c'est Jésus. Si vous vous confiez en quelqu'un du conseil, si vous vous confiez en un futur pasteur, vous allez être déçu. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la qualité de cette personne, quelle que soit la qualité des membres du conseil, quelle que soit la qualité du conseil, vous serez forcément déçu parce que vous avez affaire à des êtres humains pécheurs. Si vous vous confiez en Jésus, vous ne serez absolument jamais déçu. Un jour, le berger reviendra. Et je veux terminer par là. Et il exercera un jugement final entre brebis et brebis, entre bélier et bouc, entre mauvais dirigeants et bons dirigeants. Un jour, les masques tomberont. Un jour, il jugera chacun selon ses actes. L'humanité sera séparée en deux parties. Et le bon berger, Jésus, rassemblera son troupeau, son vrai troupeau. Et que nous soyons dirigeants ou dirigés, bergers ou brebis, il faut que nous nous rappelions de ça. Un jour, nous le verrons face à face et nous rendrons compte de tous nos actes. Alors, soyons fidèles, espérons en lui et rien qu'en lui. Amen. Je vous invite à prier.